Bonjour, c'est Jean-Marie Marcus sur Radio Axe. Pour cette 22e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi l'ikigai, cette philosophie du bonheur, se construit sur 5 piliers? La semaine dernière, j'ai partagé avec vous ma découverte de l'ikigai, cette philosophie du bonheur qui nous vient du Japon. Je vous avais indiqué son origine et décrit son concept général, vous présentant Ikigai tel qu'il est pratiqué à Okinawa depuis 1000 ans, rendant ses habitants heureux et en bonne santé jusqu'à un âge très avancé, puisque cet archipel japonais concentre le plus grand nombre de centenaires au monde. Je reviendrai en détail dès la semaine prochaine sur chacune des 4 dimensions originelles de l'Ikigai, faire ce que l'on aime, ce pourquoi l'on est doué, ce pourquoi l'on est payé et ce dont le monde a besoin. Partout ailleurs, au Japon, la recherche personnelle de l'ikigai se pratique sous diverses autres formes. Cependant, il existe des points communs entre ces différentes approches de cette philosophie de vie. Ce sont les 5 piliers sur lesquels l'ikigai s'appuie. Commencer petit, se libérer soi-même, développer harmonie et durabilité, savourer la joie des petites choses, être ici et maintenant. Et je vous propose cette semaine de réfléchir aux 2 premiers. Nous verrons alors comment les appliquer à nos vies, car s'ils sont japonais à l'origine, ils restent universels dans leur capacité à nous rendre plus heureux chaque jour. Prenons le premier pilier de l'ikigai, commencer petit. Commencer petit n'empêche pas d'être ambitieux, de se fixer des objectifs élevés. Il suppose de les aborder avec humilité, de les considérer comme l'aboutissement d'une multitude d'objectifs plus modestes, plus facilement atteignables. Commencer petit consiste par exemple à scinder ses grands projets en petites étapes, à appliquer la théorie des petits pas, avançant un pas après l'autre de façon mesurée, tempérée. À la mesure de notre propre pas et en respectant notre propre rythme. Cela me fait penser à 2 citations attribuées à Confucius. Qui veut gravir une montagne commence par le bas. Et aussi, le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Dans notre quotidien, comment appliquer le commencer petit ? De l'ikigai. Si vous êtes étudiant, travaillez à améliorer une seule matière, une à la fois, une par jour par exemple, en vous fixant de gagner peu de points à chaque contrôle, mais dans une progression régulière. Dans un cadre professionnel, commencer petit, c'est s'offrir le temps d'ajuster et d'aiguiser ses outils, de préparer tous ses ingrédients, de récolter toutes les données nécessaires avant de se mettre au travail. C'est constituer une équipe et la fédérer autour d'un projet commun avant de se lancer dans l'exécution. Du point de vue personnel, si vous rêvez du grand voyage, commencez par découvrir les trésors à votre portée, les lieux étranges, originaux ou mystérieux dans votre propre ville ou votre région de villégiature. Allez à la rencontre des groupes ou des personnes différentes de vous, par leurs origines, leur classe sociale, leurs particularités. Nous pouvons vivre dans les mêmes lieux et pourtant demeurer dans des mondes parallèles. Le dépaysement, la surprise et l'exotisme sont parfois juste au bout de la rue. Si vous désirez rattraper ce que vous considérez comme un gros retard dans la lecture et que la quantité de livres que vous avez envie de lire vous semble impossible à atteindre en une seule vie, eh bien, commencez par prendre un premier livre. Lisez la première page, le reste suivra. Une cadence de lecture régulière prendra sa place dans votre organisation de vie. Il en est de même si vous formez un projet d'écriture. Commencez par tracer les grandes lignes de votre ouvrage dans un plan très général. Les détails viendront par la suite, naturellement. Puis écrivez le premier mot de la première phrase, votre premier paragraphe. Oh, ils ne constitueront probablement pas la première page de votre futur scénario, roman ou essai. Ils en seront juste les premiers petits pas, le déclic qu'il vous manquait pour vous lancer. Je vous parlerai dans une future chronique de la méthode qui m'aide énormément à faire les premiers pas, à commencer petit. Chaque fois que je me lance dans un nouveau projet professionnel ou personnel, il s'agit du mind mapping, le développement d'une cartographie des idées telles que notre cerveau les génère. La mind map, appelée en français carte heuristique ou encore carte mentale. Commencer petit est aussi un excellent remède contre la procrastination, cette fâcheuse tendance, très largement partagée, qui nous pousse à remettre à plus tard ce qu'il serait préférable de faire maintenant. On peut procrastiner par paresse, bien sûr, mais ce n'en est pas la raison principale. C'est majoritairement la peur qui est à l'origine de bien des comportements de procrastination. Peur face à l'ampleur d'un objectif irréaliste. Peur de ne pas être prêt, de ne pas posséder tous les éléments indispensables pour réussir un projet. C'est la procrastination des perfectionnistes. Ou encore, peur d'échouer, de blesser notre ego par la démonstration aux yeux de tous de nos lacunes et de nos fragilités. Mais aussi peur de réussir et donc de devoir assumer l'inconfort des changements induits par la réussite. Nous en parlerons plus tard. Prenons maintenant le deuxième pilier de l'ikigai, se libérer soi-même. Se libérer soi-même pose immédiatement la première question, se libérer de quoi? Puis ensuite, la question suivante, pourquoi ne pas demander à quelqu'un d'autre de nous en libérer? De quoi pourrait-on avoir besoin d'être libéré par soi-même pour être heureux? Ce qui me vient en première à l'esprit, c'est l'ego. Ah, se libérer d'un ego encombrant. Comme ce serait bon, quel bonheur. Mais au fait, c'est quoi l'ego? On parle souvent d'ego surdimensionné. Existe-t-il un ego normal, voire même un ego négatif? La définition de l'ego dans le dictionnaire de psychologie est la suivante. L'ego désigne la part de personnalité chargée d'équilibrer les différentes forces auxquelles est confronté le psychisme de l'individu. Oulala. Autrement dit, l'ego désigne le « moi », c'est-à-dire la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. C'est ici qu'apparaît une autre définition de l'ego, spirituelle cette fois-ci. L'ego est la représentation fausse que nous nous faisons de nous-mêmes, vu comme ce qui nous empêche d'atteindre à une forme de vérité, de profondeur. Considéré comme une construction mentale par les bouddhistes, l'ego est une illusion qui nous empêche de nous libérer. Cette production de notre esprit nous porte à nous prendre pour le centre du monde. Cela provoque narcissisme, orgueil et suffisance chez les uns lorsque l'ego est surdimensionné, favorisant en posture de victime, dévalorisation, rumination et maintien des souffrances lorsque l'ego est négatif. Mais alors, existe-t-il un ego normal ? Pour répondre à cette question, je reprendrai une métaphore de Christophe André. L'ego est un mal nécessaire, comme un véhicule de location. Nous avons besoin de lui pour traverser la vie, comme d'un moyen de locomotion. Notre ego acceptable doit nous permettre de développer des relations harmonieuses avec nous-mêmes et avec autrui. En le contenant dans des proportions indolores, cela nous permettra de développer une estime de soi à la fois juste et saine. Je ne suis pas mon ego. Vous n'êtes pas votre ego. Vous n'êtes pas cette personne dont vous voulez construire l'image aux yeux des autres. Cette image n'est pas votre vraie nature. Vous êtes un être exceptionnel, vous êtes unique. Vous êtes bien plus que ce que vous paraissez. En revanche, vous seul pouvez vous libérer de votre ego, vous libérer du paraître, afin de vous rapprocher de votre être. J'utilise souvent cette définition du coaching. Accompagner une personne sur le chemin qui l'amène du paraître à l'être. Lâcher le paraître, l'avoir et le faire. C'est le chemin vers une liberté créatrice de votre être, comme le disait Denis Marquet, écrivain, philosophe, thérapeute, lors d'une conférence en 2010 sur le vide créateur, intervention qui m'a impressionné par sa justesse et ses idées provocatrices. Les recettes pour lâcher le paraître sont principalement composés de gratitude, de solidarité, d'altruisme, de bienveillance, d'amour, de méditation et d'auto-empathie. Elles nous sont rappelées par trois amis en quête de sagesse que j'admire profondément, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien et Christophe André. Se libérer soi-même, c'est donc aussi se libérer de l'avoir, lâcher l'avoir. Lâcher cette propension à vouloir posséder toujours plus et à mettre sa propre identité dans ce que l'on possède. Ma voiture, ma femme, mon mari, mes enfants, mon poste. Lâcher nos habitudes de consommateurs à la mode, réagissant aux sollicitations des publicitaires qui flattent nos égos et nous créent sans cesse de nouveaux désirs. Nous les faisons passer pour des besoins. Lâcher l'avoir, c'est aussi lâcher ses savoirs. Abandonner ses savoirs, ce n'est pas tout oublier. C'est se libérer des répétitions. C'est se projeter dans l'action spontanée en y donnant du sens et en se laissant porter par la découverte. Il y a 2500 ans, dans les dialogues de Platon, Socrate le traduisait si justement en disant « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Lâcher l'avoir permet de découvrir de nouveaux espaces à l'intérieur de soi, développe nos capacités à s'accueillir soi-même et à recevoir l'autre, puis à produire quelque chose de l'ordre de la spontanéité juste. Se libérer soi-même, enfin, c'est renoncer au faire, F-A-I-R-E. Lâcher cette croyance qu'il faut absolument être dans une action anticipée, préméditée, dans des schémas répétitifs et déjà éprouvés afin de rassurer. Lâcher le faire permet d'entrer dans le véritable agir, en nous ajustant aux personnes et aux situations avec agilité, sans nous laisser nous enfermer par les coutumes, les habitudes, les répétitions des processus qu'on ne remet pas en cause, puisqu'on a toujours fait comme ça. Renoncer au faire permet d'être dans une partie vierge et intacte de nous-mêmes, connectée à notre enfant intérieur, prompt à remettre en cause les usages pour chercher de nouvelles vérités et créer de nouvelles solutions, toujours prêt à se libérer soi-même. La semaine prochaine, j'aborderai les trois autres piliers de l'ikigai. Développer harmonie et durabilité, savourer la joie des petites choses et être ici et maintenant. Le conte de la semaine est un conte soufi qui s'intitule « La sitar du bonheur ». C'était un homme droit et sincère qui cherchait le chemin du bonheur et de la vérité. Il alla un jour trouver un vénérable maître soufi dont on lui avait assuré qu'il pourrait les lui indiquer. Celui-ci l'accueillit aimablement devant sa tente et après lui avoir servi le thé à la menthe, lui révéla l'itinéraire tant attendu. C'est loin, certes, mais tu ne peux te tromper. Au cœur du village que je t'ai décrit, tu trouveras trois échoppes. Là te sera révélé le secret du bonheur et de la vérité. La route fut longue. Le chercheur d'absolu passa maints cols et rivières, jusqu'à ce qu'il arrive en vue du village, dont son cœur lui dit très fort « Ah, c'est là le lieu, oui, c'est là. » Hélas, dans chacune des trois boutiques, il ne trouva comme marchandise que rouleaux de fil de fer dans l'une, morceaux de bois dans l'autre et pièces éparses de métal dans le troisième. Fatigué et découragé, il sortit du village pour trouver quelque repos dans une clairière voisine. La nuit venait de tomber. La lune remplissait la clairière d'une douce lumière. Lorsque tout à coup, se fit entendre une mélodie sublime. Mais de quel instrument provenait-elle donc ? Il se redressa tout net et avança en direction du musicien. Lorsque stupéfait, il découvrit que l'instrument céleste était une sitar, faite de morceaux de bois, de pièces de métal et des fils d'acier qu'il venait de voir en vente dans les trois échoppes du village. À cet instant, il connut l'éveil. Il comprit que le bonheur est fait de la synthèse de tout ce qui nous est déjà donné et que notre tâche est d'assembler tous ces éléments dans l'harmonie. Pour l'action de la semaine, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous autorisez à faire un premier pas vers ce que vous avez envie de réussir et que vous reportez depuis trop longtemps. Commencez petit, ne vous fixez qu'un premier but atteignable, les autres pas suivront. Quant à la musique du bonheur de la semaine, je vous laisse avec The Police et leur titre De Doudoudou De Dadada. C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux.